Pour en parler, nous recevons monsieur la professeure de littérature française médiévale aux universités de Lausanne et Neuchâtel, Alain Corbellari, j'en souris. Bonsoir.
Bonsoir. Alors je précise que je suis la professeure à Neuchâtel, mais je suis bien le professeur à Lausanne.
D'accord. C'est pas difficile à vivre ça au niveau de
l'identité? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que je vais essayer de toute façon de dire des choses ici qui ne feront pas de peine à madame la rectrice Stoffel, mais ça se vit.
Très bien. Plus sérieusement, les tenants de cette féminisation invoquent l'argument historique. Et c'est de ça dont on va parler. Le masculin, apparemment, n'a pas toujours été tout puissant dans la langue française. Qu'en est-il, vous, le spécialiste, justement, de littérature française médiévale, notamment, quand on se plonge dans les textes, est-ce qu'on voit que le masculin générique n'a pas toujours été la règle ?
Alors, effectivement, on voit que le masculin ne l'emporte pas toujours. Je n'ai pas trouvé d'exemple de féminin générique, mais c'est vrai que normalement un adjectif s'accorde quand il y a plusieurs sujets avec le sujet le plus proche, et que le verbe aussi s'accorde avec un des sujets, et donc on peut avoir un verbe au singulier pour un double sujet.
Donc on aurait pu écrire plus simplement, par exemple, le garçon et sa voisine sont partantes pour aller se promener.
Par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui a perduré jusqu'au XVIIe siècle. Ceux qui veulent nous faire croire que la langue classique a définitivement aboli cela, eh bien peuvent aller voir chez Racine. Racine, Iphigénie, acte 3, scène 5. Mais le fer, le flambeau, la flamme est toute prête.
D'accord, donc le féminin aussi a quand même sa place dans la grammaire et peut être prépondérant selon la place du mot.
S'il est suffisamment proche du verbe ou de l'adjectif, eh bien c'est lui qui va déterminer le genre.
Alors comment Alain Corbellari expliquait que le masculin l'ait emporté autour du XVIe-XVIIe siècle, notamment apparemment sous l'impulsion de l'Académie française qui aurait aussi, entend-on, supprimé certains termes féminisant les métiers par exemple?
Alors ça c'est même plus ancien. On peut montrer que dès la fin du XVe, début du XVIe siècle, la féminisation des noms de métiers est en grande régression, à cause en particulier des statuts qui interdisent de plus en plus aux femmes d'occuper certaines professions. Donc s'il n'y a plus de femmes, plus d'intérêt à utiliser ces mots. Mais ces mots sont extrêmement courants pendant tout le Moyen-Âge. J'ai ici un texte qui parle des apprentis, ce qui est une façon assez subtile de faire un féminin. On parle évidemment des mirgès. Le mire, c'est le médecin. Donc la mirgès, c'est la femme médecin. Comme il y en avait beaucoup au 11e, 12e, un peu 13e siècle, et comme elles ont fini par disparaître. Et puis on a quand même la figure de la grande féministe du début du 15e siècle, Christine de Pizan, qui se disait clergesse.
D'accord, donc il existe des appellations féminines de métier pour traduire que la fonction est occupée par une femme, et cela disparaît au fur et à mesure des siècles pour laisser place au masculin, et ça vous le reconnaissez, c'est pour quelque part affirmer quand même la domination masculine dans la société.
Oui, et c'est aussi, il y a quand même aussi une raison linguistique, c'est-à-dire qu'à partir du XVIe siècle, surtout sous l'influence de l'imprimerie, il y a énormément de débats sur l'orthographe, sur la grammaire, sur la langue en général, et il y a une tendance à la simplification. Et évidemment, je ne dis pas que cela est prépondérant, il y a le double aspect politique et linguistique, mais cette tendance à la simplification va évidemment dans le sens des hommes, puisque souvent la forme non marquée, la forme qui n'a pas de E, est la forme masculine. Et donc, assez vite, on amalgame les deux raisons pour trouver logique, comme le pensent encore beaucoup d'amoureux de la langue française d'aujourd'hui, que le nom marqué puisse l'emporter. Mais évidemment, là, on est dans quelque chose. Est-ce que c'est le nom marqué ou est-ce que c'est le masculin ?
Par contre, on n'assiste pas à des formes vraiment féminines pour dire le tout.
Non, mais le Moyen-Âge aime énormément, d'abord il aime beaucoup les adjectifs épicènes, il y en a beaucoup plus qu'en français moderne, et puis il aime énormément les formules inclusives. Tous et toutes étaient contentes, ou bien toutes et toutes étaient contents, ou bien chacun et chacune. C'est des formules très littéraires, mais c'est toujours des façons d'inclure tout le monde. Alors il y en a pour tous les goûts, il y a les malades et les bien portants, les sages et les fous, les hommes et les femmes.
Donc ça, c'est pas un toc du 21e siècle, ouais, ou une volonté politique récente. C'est quelque chose qui existait déjà bien auparavant. Mais comment expliquer ce masculin universel, par exemple, qu'on entend régulièrement, notamment dans l'actualité, quand on parle de la Cour européenne des droits de l'homme, la déclaration évidemment des droits de l'homme. Pourquoi l'homme, rappelez-nous, a cette fonction universelle de représenter aussi la femme?
Comme je le disais tout à l'heure, bon, il y a d'abord évidemment une certaine misogynie qui est là derrière, c'est évident, mais il y a aussi le fait que souvent les formes masculines dans les adjectifs, par exemple, ne sont pas marquées. Donc ça pousse à utiliser plutôt les formes masculines. Maintenant, évidemment, entre homme d'un côté, femme de l'autre, on ne peut pas dire qu'il y a une forme qui est plus marquée que l'autre.
Et ça, à votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait changer, justement cette appellation de l'homme pour désigner homme et femme?
Personnellement, je préfère les formulations inclusives. Je trouve que remplacer simplement les hommes par les femmes, c'est comme si en Afrique du Sud, au moment où on a aboli l'apartheid, on aurait plutôt que de l'abolir, décidé que dorénavant, ce seraient les Noirs qui opprimeraient les Blancs et pas l'inverse. Je trouve que du point de vue civilisationnel, le gain est nul, et du point de vue de l'entente des sexes, il est doublement nul.
Donc inclure plutôt que exclure, on vous comprend bien. Mais là, la démarche, elle a clairement une volonté de provoquer, de susciter le débat, c'est assumé par l'Assemblée de l'Université. Est-ce que vous avez l'impression, quand on regarde l'évolution de la langue française, que ce genre de provocation, de pavé dans la mare, a justement une chance de faire école?
J'ai les plus grands doutes. Pour que la petite université de Neuchâtel en impose à tout le monde francophone. Et puis, je crois quand même que ce n'est pas très intuitif, malgré tout. On dit toujours que l'Académie française a imposé des choses. C'est complexe, parce que tous les grammairiens du XVIIe siècle disent qu'ils suivent l'usage. Malherbe, le grand poète qui, au début du XVIIe, a essayé de réglementer la langue classique, a dit qu'il voulait parler le même langage que les crocheteurs du Port au Foin, donc des petits ouvriers de Paris. Alors, évidemment, si lui-même dit qu'il va plutôt suivre ce langage-là, ça veut dire qu'il ne veut rien imposer, et que ce langage s'imposerait par lui-même. De toute façon, l'évolution d'une langue est toujours quelque chose de très mystérieux. Après coup, on peut toujours dire « Ah ben c'est logique, ça a évolué comme ça », mais sur le moment, on se trompe presque toujours. Au début du XXe siècle, on était persuadé que les formules en « c'est-y pas vrai, c'est-y pas ça » allaient l'emporter dans la langue. Raymond Queneau a écrit dans les années 30 des articles pour dire que ce serait le cas. 40 ans plus tard, Queneau a quand même eu l'honnêteté de reconnaître qu'il s'était trompé. Mais il a trouvé un coupable, ou une coupable, c'est la télévision. Il a dit « Ben voilà, la télévision a freiné l'évolution du langage, mais s'il n'y avait pas eu la télévision, je pense que j'aurais quand même eu raison. » Donc, comme quoi, les prophètes sont souvent assez vexés d'avoir eu tort.
Donc c'est les médias qui peuvent aussi avoir un rôle à jouer aujourd'hui pour...
Absolument. Les médias ont souvent un rôle régulateur. Alors, évidemment, mais encore une fois, on ne sait pas exactement comment évoluent les choses. Tout d'un coup, un journaliste, un politicien, ou un obscur type au fond d'un bistrot a une trouvaille géniale, invente un mot comme ça, et tout d'un coup, ce mot, on ne sait pas pourquoi, se met à faire florès. Il en est de même de toutes les expressions, de toutes les locutions qui finissent par s'imposer dans la langue. On ne sait pas comment elles arrivent.
Donc, à bien vous comprendre, la démarche de l'université de Neuchâtel a le mérite de provoquer, si elle a l'intention de décréter, elle n'a aucune chance de succès.
J'en doute. Mais je pense que, puisque nous en parlons ici, c'est que le premier but est en tout cas réussi.
Puisque vous êtes venu nous en parler, Alain Corbellari, en tout cas, on vous remercie infiniment pour cet éclairage sur cette volonté de l'université de Neuchâtel de féminiser ses statuts. On vous souhaite une bonne soirée et à bientôt dans Place Publique.